Un caillou dans la chaussure. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, une lecture à propos d'enfance, ou plutôt de l'art de parler aux enfants. Un texte d'Elsbieta, auteure illustratrice d'albums jeunesse. Une grande dame qui n'a pas oublié son enfance. En seconde partie, nous retrouverons Nathalie Guimard et le petit cinéma de Photokino. Nathalie accompagnée aujourd'hui de Karen Lewis.
Et oui, avec Karen qui connaît un peu mieux la Suède que moi, nous irons faire un tour dans la forêt des framboisiers chez Desmond et ses amis, donc dans un film d'animation en volume qui nous vient de Suède, naturellement.
En troisième partie, nous accueillerons Josette Baïs, chorégraphe, à propos d'un spectacle à voir en famille, Ulysse, dansé par des enfants, des danseurs professionnels. Ulysse joué au Pavillon Noir à Aix-en-Provence. Elsbieta est née en Pologne, de mère française et d'un père polonais. Elle est plasticienne et elle écrit et elle illustre avec soin des histoires depuis 20 ans. Sa propre enfance est faite de plusieurs langues, de lieux multiples, d'expériences fortes, de déchirements, de voyages. Et elle a grandi en gardant une relation intime avec l'enfance qu'elle traduit très volontiers, discrètement, dans des ouvrages splendides. Parallèlement, elle a, dans un superbe livre intitulé « Enfance de l'art », dans ce magnifique livre qui a été édité en 1997 aux éditions du Rouergue, puis très récemment réédité, Elsbieta s'adresse aux adultes et elle nous invite à visiter sa manière de s'adresser aux enfants. L'enfance qu'elle considère comme un pays que nous oublions trop vite, d'après elle, pour investir le monde adulte.
Un caillou dans la chaussure.
L'enfant et l'artiste habitent le même pays. C'est une contrée sans frontières, un lieu de transformation et de métamorphose. Les mots y vivent en vrac, se quittent ou se rassemblent en troupeaux de hasard. Les chats y abandonnent des sourires en croissant de lune dans les feuillages. Les objets oublient leurs contours, s'ajoutent une ombre, changent d'usage, puis se fractionnent encore et forment des images nouvelles. Les reflets, le brouillard, la lumière y manifestent la solidité des gisements minéraux. Le fond et la forme s'échangent leur place. Tout s'interpénètre et se sépare, tout fait sens et mérite examen. Il me paraît donc naturel, parcourant ces régions depuis si longtemps, d'y rencontrer de temps à autre des enfants occupés aux mêmes explorations et d'échanger avec eux expériences et informations comme le font partout dans le monde les gens du voyage. Ainsi sont nées, parallèlement à mon travail d'artiste plasticienne, les histoires et images de mes albums adressés aux enfants. Impossible d'échapper au cours du temps et de l'inverser en commençant par être d'abord une grande personne. Avant de devenir adulte, chacun de nous, sans exception aucune, a été un enfant. Pourquoi l'avoir oublié ? Pendant l'enfance, dans leur irrépressible hâte d'accéder au pouvoir dont ils imaginent les adultes investis, la plupart d'entre nous, abandonnant logique et manière spécifique de déchiffrer le monde, sèment en route un regard en arrière, sans la moindre sensation de perte, avec au contraire le sentiment satisfait de gagner au change des compétences au moins aussi considérables que celles après lesquelles ils courent. Mais quelquefois, à la faveur des circonstances d'une histoire particulière, un doute peut s'insinuer et un enfant se demander s'il faut vraiment, sans réfléchir, abandonner ainsi ses armes pour se livrer sans retenue au désir de devenir une grande personne. Quelque chose de ce genre a dû m'arriver jadis quand je me suis aperçue combien certains adultes, parmi ceux qui me paraissaient les moins dignes de confiance ou quelquefois les plus malheureux, avaient rompu avec leur enfance au point d'être devenus cruellement aveugles à celle de leurs successeurs. Heureusement, à cette époque déjà, sans savoir alors combien ce choix sauvegarderait quelque chose de mes pratiques enfantines, j'avais décidé de devenir artiste. Avant d'entreprendre cette activité, je n'avais jamais réfléchi à ma conception de l'enfance. En avais-je seulement une ? Il m'aurait sans doute été difficile de le dire et pourtant, indéniablement, mais sans le savoir, j'avais envers cette partie de l'humanité une disposition bien précise que mes livres m'ont peu à peu révélée. Je n'avais pas non plus d'idée particulière sur les livres pour enfants. Surtout, je ne me doutais pas combien cette entreprise serait chez moi fondée sur les expériences de ma propre enfance. En somme, je ne partais pas d'une connaissance, il serait plus juste de dire que je suis allée vers une découverte. Par exemple, petit à petit m'est venu le sentiment personnel que, quand les intentions sont claires, les livres pour enfants se conçoivent à partir de trois positions différentes, et dans ce choix, la mienne est toujours celle de l'enfance. Je veux dire que la logique dans laquelle je me place spontanément diffère des positions qu'il m'arrive de qualifier, et ces distinctions n'engagent que moi, de paternelle et maternelle. Je veux dire que la logique dans laquelle je me place spontanément diffère des positions qu'il m'arrive de qualifier, et ces distinctions n'engagent que moi, de paternelle et maternelle. Ces dernières sont, dans mon esprit, celles de la transmission du savoir sur le monde fini, celui de nos connaissances transmissibles car, provisoirement du moins, immuables. Connaissances abstraites pour le père, connaissances concrètes pour la mère. L'auteur mère, je parle bien sûr dans tous les cas de la position symbolique de l'auteur et non de la situation réelle par rapport à un enfant, ni a fortiori de son texte. L'auteur mère, donc, enseigne tout ce qui touche au corps, comment se nomment ses parties, comment on l'habille, le nourrit, lui lave les dents, l'endort. Il enseigne les sens, les dangers, la douleur. Il fait découvrir à l'enfant son environnement immédiat, le petit monde de la maison, le jardin, les animaux domestiques. L'auteur père, quant à lui, enseigne l'univers au-delà de la maison. Il fait des dictionnaires, des encyclopédies, des ouvrages scientifiques, des manuels. Le rôle dévolu à la position dans laquelle je me place, celle que je désigne comme étant enfantine, diffère donc des positions parentales en ce qu'elle concerne l'ouvert. C'est la disposition d'esprit qui produit des ouvrages de fiction dont le rôle consiste, de mon point de vue, à fournir aux enfants des outils et un cadre pour leur permettre d'explorer, d'expérimenter, et d'agrandir le champ de la pensée spéculative, de l'imaginaire et du sentiment, et aussi à apprendre à en gérer les débordements. En somme, le domaine du livre pour enfants s'est révélé pour moi n'être pas seulement l'occasion de créer des histoires, des personnages et des styles amusants, mais cette activité m'a offert le moyen de retrouver et de faire revivre la manière qu'a l'enfant, selon moi, de penser le monde en général et le mystère des grandes personnes en particulier.
Petit à petit, à tout petit pas, petit à petit, un tout petit gars, à pas tout petit, un petit s'en va. Où va ce petit? Il ne le sait pas. À côté de lui s'en va pas à pas. À côté de lui s'en va son papa. Et notre petit gars allonge un petit peu ses petits pas. Un pas et demi pour le petit gars. Un pas et demi c'est un demi pas. Pas même un demi pas pour son papa. Qui auprès de lui ne se presse pas. Quand on est petit, on n'est presque pas. Quand on est petit, on ne compte pas. Petit à petit, on presse le pas. Et le tout petit compte sur papa. Le pas si petit, pas si petit pas. Le pas si petit grandit pas à pas. À pas si petit, si grand petit pas. S'en va le petit, où va son papa? Ton papa petit, ton petit papa. Ton papa petit ne t'emmène pas. Car les grands petits ne comprennent pas. Plus que les petits, où s'en vont leurs pas? Mais les tout petits, gars. Mais les tout petits ne le savent pas. Et de son petit pas, tout petit pas, s'en va le petit avec son papa.
Avec son papa.
Alors, Elsbieta, donc vous venez d'entendre un texte, c'est un texte introductif donc de ce livre qui s'intitule « L'enfance de l'art » aux éditions du Rouergue. Vous avez pu voir que sa posture, je me permets d'y revenir, parce que si dans le détail du texte, ça peut porter à confusion. Et Elsbieta, effectivement, a une posture singulière par rapport aux enfants et à la lecture des albums jeunesse. Elle s'adresse en priorité aux enfants, même si les lectures de livres sont partagées par les adultes, puisque un certain nombre de ses ouvrages sont destinés à la toute petite enfance, aux enfants de 2, 3 ans, 4 ans. Et en fait, ce qui est intéressant, bon, après, effectivement, ça se discute, mais elle est partisane d'une intervention la plus minimale possible des adultes. C'est un travers dans lequel on tombe assez souvent d'ailleurs. C'est la tentative toujours d'expliquer les livres aux enfants. Puisqu'en fait, certains de ces livres ont été retenus dans la liste de l'éducation nationale qui encourage les enseignants à travailler à partir des albums jeunesse pour l'apprentissage de la lecture, entre autres. Et Elsbieta, et bien entendu pour que les albums jeunesse contemporains soient présents à l'école et dans l'environnement proche des enfants. Mais ce qu'elle déplore, c'est souvent ce que les adultes en font, décortiquent lorsqu'ils décortiquent les livres et lorsqu'ils tentent d'expliquer aux enfants le monde à travers ces livres, tout au moins de rajouter des mots et des explications, des idées toutes faites, leur interprétation, en fait, de ces livres. Et donc, Elsbieta, ce qu'elle défend, c'est la liberté de penser des enfants et de rêver et de comprendre les livres à leur niveau. Voilà. Alors, donc, bon, c'est une grande dame. Ces livres, ça fait 20 ans qu'elle crée des livres, des textes et des images avec un travail singulier d'un point de vue esthétique et aussi en ce qui concerne les textes. Elle y accorde une très, très grande importance. Ses textes sont souvent poétiques. Elle aime beaucoup les ritournelles, donc des petites choses comme ça, qui sont familières à l'univers des enfants et qu'elle continue à travailler. Et elle parle aux enfants avec une délicatesse et une sincérité peu commune, avec tendresse sur des sujets loufoques, imaginaires ou en prise avec la réalité. Par exemple, son livre le plus connu, c'est Flonflon et Musette, qui raconte, c'est une histoire d'amitié impossible en situation de guerre et qui finalement invite les enfants à voir les incohérences aussi des adultes et des séparations entre les enfants qui forcément eux ne raisonnent pas de la même manière. Voilà.
Non, mais il faut le dire, oui, que la guerre, c'est assez absurde.
Bien entendu. Bien entendu. Alors, et parallèlement, les albums d'Elsbieta sont peuplés de clowns, de polichinelles, de lutins, de petits lapins. C'est un univers tendre, je l'ai déjà dit. Il y a aussi des ours. Et en fait, ce sont des personnages qui, avec toute cette tendresse et toute cette délicatesse, questionnent le monde, se posent des questions sur des expériences qu'ils vivent déjà très tôt, sur l'amitié, la séparation d'avec la mère. Et tout ça, c'est traité avec une très, très grande pudeur. Voilà ce que je voulais vous dire pour attirer votre attention sur le travail de cet auteur. Alors, en 2008, trois livres ont paru. La pêche à la sirène, par exemple. Ça, c'est le dernier livre paru en 2008. Mais il y a aussi eu des rééditions, par exemple, Où vont les bébés. Ce sont des livres, Petite Lune aussi. Ce sont des livres voilà, qui ont marqué l'histoire des albums contemporain et avec ce regard singulier et cette proposition singulière que nous fait Elsbieta.
Vous écoutez Radio Grenouille sur 88.8.
J'avais un oiseau bleu. Puis, il s'est envolé. J'avais une grenouille verte. Elle s'est carapatée. J'avais un ours brun. Oh, lui aussi s'est sauvé. J'avais une souris grise. Le chat me l'a croqué. J'avais une poule rousse. Le loup me l'a volée. J'avais une culotte mauve. Un chien me l'a chipée. J'avais une rose rose. Un mouton l'a broutée. Et mon parapluie noir, le vent l'a emporté. J'avais un bonnet rouge. Un merle me l'a becqueté. J'avais une bougie blanche. Le feu me l'a brûlée. Puis, c'était le matin. Je me suis réveillée. C'était Clown d'Elsbieta. Alors, vous l'aurez compris, un caillou dans la chaussure, on vous recommande les livres d'Elsbieta pour participer activement au développement du goût et de l'imaginaire qui se forme très tôt dans l'enfance. Peut-être deviendrez-vous des inconditionnels des livres d'Elsbieta. Voilà, donc des livres que vous pouvez retrouver dans vos librairies, sur les tables des libraires ainsi que dans les bibliothèques.
Par ici, tes regards se croisent et se fuient. Je me renvoie souvent qui je suis. Je passe le temps, moi, je m'oublie. Plus que du vent ne tombe de la pluie, je jette un œil, moi. Je m'envie, je passerai bien du temps là-bas. Ici, mon ami, jamais ne répond à mes écrits. Juste une idée passe qui me suit. Juste une idée passe que je suis. C'est juste une idée qui passe et que je puis. Chargé d'ennemis, je souffle et souffre, me détruit sous mon regard de simple ahuri. Je passerai bien du temps avec lui. Plus que du vent ne reste des débris, je sens l'odeur et toute la nuit c'était je voudrais partir loin d'ici. Je passe le temps, moi, je m'oublie. Juste une idée passe qui me suit. Juste une idée passe que je suis. C'est juste une idée qui passe et que je fuis.
Et tout de suite, en attendant de se rendre à la séance du mercredi 4 mars proposée par Photokino au cinéma Les Variétés, Nathalie Guimard et Karen Lewis nous offrent le plaisir d'imaginer à la radio Desmond et la créature du marais.
Oui, un film qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui, bien que réalisé en pâte à modeler, ne s'adresse pas qu'aux tout petits. Attention, les lumières s'éteignent.
Desmond et la créature du marais. Vous êtes déjà allé dans la forêt des framboisiers, vous savez que c'est un endroit très spécial. Pas seulement pour ses délicieuses framboises, mais aussi à cause de ses habitants farfelus.
Parmi les habitants de la forêt des framboisiers, il y a Sébastien le lapin, qui n'a pas l'air très malin, Willy le putois, un rocker pas très sympa, Madame Alligator et son petit gator. Quel garnement celui-là!
J'ai rien fait!
Il y a aussi Elena, l'élan qui tient un salon de beauté, Gérard Caribou, le maire du village, député cantonal et conseiller régional, et Desmond, un cochon tranquille qui passe ses journées à cuisiner des muffins à la pomme quand il n'est pas dans son sauna ou dans son bain de boue. Tout ce petit monde roule comme sur des roulettes, mais un beau jour, chaque habitant découvre qu'on lui a volé un de ses objets préférés. Mais qui peut bien être le voleur? Et si c'était la mystérieuse créature des marais?
Ce terrible monstre qui habite peut-être le marais. Une créature qui fait plein de choses horribles.
La liste des précieux objets disparus s'allonge. Les pommes du cher arbre de Desmond, les vernis à ongles dernier cri de Léna, la guitare de Willy le putois, et même les meilleurs gants de boxe de Sébastien Lapin.
Bonjour, tête de mort. Quelle bonne surprise. Tu veux un coup sur le vif?
Non. Et tu ferais mieux de me rendre ma gratte.
Quoi, ta gratte? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je puisse pas.
Quelqu'un m'a fauché ma guitare électrique et il n'y a qu'un crétin de lapin pour faire un coup pareil.
Sébastien réfléchit un instant et décida que quelqu'un criant des choses si méchantes méritait effectivement un bon coup sur le pif.
Bon, eh ben ne bouge pas. Je vais tout de suite te chercher.
Ma gratte.
Mes gants de boxe préférés. Parce que tu mérites un bon coup sur le pif.
Hein?
Ah! Disparu! On me les a volés!
Ah! Arrête d'arroser le plancher! Ah, allez, viens avec moi! Faut qu'on retrouve le voleur!
Tête de mort, c'est Willy le putois. C'est un dur, un méchant même parfois. Et pourtant, ses amis seront là pour l'aider. Dans Desmond, tous les personnages sont très humains. Certains ont un caractère bien trempé, mais chacun a ses petits défauts. Et ceux qui semblent en avoir le plus nous révèlent de belles qualités au cours de ces différentes histoires. Les aventures de cette communauté peu commune parlent d'amitié, de peur, de jalousie, d'amour, avec toujours une bonne pincée d'humour.
Yeah! Et la poix gagne. Un nouveau record mondial. Je suis le meilleur aux 100 mètres. Il n'y a personne qui puisse me battre. Youhou, 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 youhou.
Bien, plaque suivante. Tu peux me la passer?
Prends-la tout seul.
Délicieux mélange. Tu veux goûter?
Non, non.
Et pourquoi es-tu aussi mal luné? Tu es bizarre. D'habitude, on s'amuse bien à cuisiner ensemble.
Ensemble? C'est toi qui t'amuses bien à faire tes muffins. Moi, je suis juste là à te regarder. Pourquoi je cuisine jamais?
C'est une bonne question. Tu y arriverais tout seul?
Bien sûr que oui. Je te ferais dire que je suis champion du monde des muffins aux pommes. Attends un peu, tu vas voir. Allez, laisse-moi faire, je m'en charge.
Mais je devrais peut-être rester pour...
Non, non, je vais me débrouiller.
Et pendant que Willy cuisinait, Desmond prit un rafraîchissant bain de boue. Mais au bout d'un moment, Desmond sentit quelque chose. Une odeur qui ressemblait à des muffins. Et des muffins brûlés, carbonisés même. Comme une odeur de charbon aux pommes, peut-être.
Un caillou dans la chaussure. Un caillou dans la chaussure.
Pour le réalisateur de Desmond, Magnus Carlson, je l'ai bien prononcé, oui, parce qu'on a une spécialiste de la langue suédoise à côté de moi, donc je fais attention. Son film devait apporter quelque chose aux enfants de 4 à 10 ans. Il souhaitait aussi que le film parle aux parents et aux adultes en général. Il faut dire que le style de Magnus Carlson semble assez particulier. Pour lui, il est juste très suédois. Ce que Karen me disait être peut-être un style un peu décalé. Hein. Il est plein d'ironie, plein de second degré. Le ton du film est plutôt libre, comme vous avez pu l'entendre. Et Desmond est son premier long-métrage d'animation. Mais il a néanmoins commencé à travailler dans l'animation dès 1988 pour des séries animées télévisées, mais plutôt pour adultes. Et la plus connue de ces séries s'appelle Robin, avec un univers un peu proche de South Park. Un de ses épisodes inédits est d'ailleurs devenu le clip d'une chanson de Radiohead. C'est pour vous dire, et censuré plusieurs fois.
Censuré, ouais.
C'est pour vous dire, et censuré plusieurs
oui,
fois.
Censuré, ouais.
Oh, c'est trop nul.
Oh, c'est une vraie merveille.
Je précise que ce n'était pas un extrait de Radiohead.
Le petit cinéma.
Pour son premier long-métrage d'animation, long-métrage parce que le film dure un peu plus d'une heure, Magnus Carlson a préféré l'animation traditionnelle. Desmond et ses amis sont des marionnettes fabriquées en plastique expansé, une pâte à modeler spéciale pour le cinéma d'animation. Et sur le site du distributeur du programme, lesfilmsdupreau.com, tout attaché, on trouve des fiches pédagogiques et des activités autour des films pour les petits. Autour du film Desmond, vous pouvez consulter plusieurs documents sur les métiers du cinéma d'animation, les techniques utilisées. Vous saurez presque tout sur le scénariste, le décorateur, le bruiteur ou encore le monteur. Et il y a même des jeux et des idées d'ateliers. Je rappelle d'ailleurs que pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois, que le petit cinéma, c'est aussi un atelier, avant le film le mercredi matin, une occasion sans cesse renouvelée de découvrir la magie de l'image animée et la richesse du cinéma du monde entier, et du cinéma d'auteur tout particulièrement.
Que quelqu'un coupe le courant, vite!
Oh maman, j'en veux une moi aussi! Une gratte!
On verra plus tard, mon grand.
En tant que mère, je vous le dis, le vrai bonheur se trouve ici. L'amour est là, pas loin, avec ses traits si fins, ses longues dents. Et de si belles griffes, je suis le plus heureux des caribous. Mon cœur vibre pour ce si beau reptile.
Ah.
Quand je la vois, ma crocodile, j'oublie mes soucis et tout devient facile. Comment ne pas aimer sa longue crête, ses écailles vertes comme des émeraudes? Moi qui de l'eau ai une peur bleue, je plongerai dans le bleu de ses yeux.
Que connaissons-nous du cinéma d'animation suédois? Ses débuts? Ses principaux auteurs? Ses films récents? On avait besoin d'une spécialiste pour nous en parler. Alors Karen, je crois que tu as mené ta petite enquête.
Oui, tout à fait. Alors on ne peut pas parler du cinéma d'animation suédois sans évoquer le pionnier du genre. C'était Monsieur Victor Baldahl. Alors il est l'auteur entre 1910 et 1920 d'une vingtaine de petits courts-métrages animés qui mettent en scène un personnage humoristique, le Capitaine Grog. Donc ces petits films ont eu beaucoup de succès à l'époque. Et ensuite, il faut attendre 1968 avant la création du premier long-métrage d'animation suédois. Il est intitulé « Dans la tête d'un vieux bonhomme » et réalisé par une des figures marquantes du cinéma d'animation, c'est Pål Åhlin, qui, la même année, fonde le premier studio d'animation suédois. Donc, il devient un des grands personnages de ces 30 dernières années, avec une dizaine de longs-métrages à son actif. On peut citer, entre autres, le Conte de Noël de Karl-Bertil Jonsson, une sorte de Robin des Bois des années 70, qui met en scène un personnage adolescent qui redistribue les cadeaux de Noël le soir aux plus pauvres. Et ce film est rediffusé tous les Noëls à la télévision suédoise, donc c'est devenu un grand classique. Le trait de Pål Åhlin est très facilement identifiable, il a souvent des personnages ronds, il a beaucoup d'humour aussi dans ses films, et il s'est vu décerner en 2006 un prix récemment créé pour récompenser une réalisation exceptionnelle dans le domaine du cinéma pour enfants. En France, on a aussi pu voir son dernier film sortir en salle en 2008. C'est L'Orban, le petit fantôme.
Ah, c'est lui.
Voilà. Mais bon, il n'est pas seul. Hein. Il est entouré d'une équipe d'animateurs puisqu'ils se sont un petit peu tous mis ensemble pour restituer les livres jeunesse. Parce qu'en fait, L'Orban, c'est un personnage mythique en Suède. Il y a énormément de livres qui ont été dessinés autour de ce petit fantôme. Donc là, on assiste moins à une création véritablement personnelle de Pål Åhlin. C'est plus une restitution d'un univers enfantin. Déjà créé dans un album qui a été fait par Lasse et Ingel Sandberg. Donc c'est beaucoup moins une création personnelle de sa part. Et d'ailleurs, en Suède, il y a une tradition au niveau de la littérature et de l'illustration jeunesse qui est très, très vivace et très importante, qui a une grande place. Donc, beaucoup de films d'animation ont été réalisés et ont transposé ces livres jeunesse. On peut, par exemple, citer les aventures de Petson et Picpus, un vieux bonhomme qui vit à la campagne avec son petit chat Picpus. Donc un drôle de petit chat en pantalon et ils ont plein de petites créatures autour d'eux qui vivent dans cette petite maison. Donc ça peut faire penser un peu à Desmond aussi parce qu'il y a ce côté campagne, animaux et aventure un peu loufoque et décalée aussi parfois. Et donc ces films de Petson et Picpus ont été produits par le principal studio d'animation qui s'appelle Happy Life, un nom très suédois. Mais ces animations ne laissent par contre pas beaucoup de place à la créativité de l'auteur. Et c'est là que Magnus Carlsson arrive avec une touche bien à lui. Donc il est connu à l'étranger pour, donc, comme disait Nathalie, ses séries animées réalisées pour la télévision, diffusées dans le monde entier en fait. Et il y en a une bonne série, entre autres donc Jorbin, qui est quand même destinée davantage aux adultes. Et ce ton un peu libre et un petit peu cru parfois se ressent dans Desmond et la créature du marais, mais ça reste tout de même très accessible, même pour les tout-petits et très bon enfant. Pour finir, donc, un petit tour d'horizon des dernières années, on a aussi d'autres animateurs d'une grande diversité qui se sont appropriés des techniques moins traditionnelles, par exemple l'aquarelle ou les éléments découpés. On peut citer par exemple Gunn Jacobsson, qui a réalisé un petit film très, très poétique et un petit bijou d'animation qui s'appelle L'oiseau gris, qui date de 1996, réalisé à l'aquarelle. Donc ça, c'est vraiment une particularité suédoise, dans le sens où elle apporte quelque chose de différent et de très nordique. Et il y a aussi le duo d'illustrateurs et d'auteurs Uzi et Lotta Geffenblad. Eux aussi travaillent avec des éléments découpés que l'on bouge manuellement ou technologiquement. Ils utilisent aussi des décors réels, comme par exemple des fleurs de chardon pour le long métrage qu'ils ont réalisé en 2005 qui s'appelle Franz et le chef d'orchestre.
Ah d'accord.
Donc, ils ont aussi fait un petit court-métrage intitulé « Les pierres d'Aston » en 2007, et réalisé à l'aide de l'ordinateur, cette fois-ci, mais en essayant de reproduire les effets du papier découpé, malgré tout. Donc, on sent un petit peu ce souci d'apporter des touches très traditionnelles. Et c'est l'histoire d'un petit chien, Aston, qui ramasse les pierres qu'il a trouvées sur son chemin, et il s'en occupe comme ses petits-enfants. Voilà, donc c'était pour vous donner quelques petites pistes au niveau des films suédois et qu'on peut retrouver sur le site des films du Préau.
Eh oui.
Pas tous, mais quelques-uns en tout cas. Voilà.
Oui, Laban, le petit...
Le petit fantôme
l'oiseau Aston gris, et l'oiseau gris. Oui. Tout à fait. Et Franz, et le chef d'orchestre est distribué en France, mais je suis plus sûre que ce soit le film du Préau.
Si,
mais...
si,
c'est aussi le film du Préau,
oui.
Voilà. Donc,
oui, voilà.
Les films du Préau sont spécialisés suédois.
En tout cas, ils ont vraiment réussi à dénicher les petites perles.
Et au fait, Karen, comment dit-on le petit cinéma en suédois ?
Lilla Bion.
Ah oui, bien sûr. Je voulais juste pas rappeler que Desmond et la créature du marais sera programmé le mercredi 4 mars à 10h au cinéma Les Variétés. Et si vous souhaitez assister à l'atelier qui précède la séance du 4 mars, eh bien, il faut réserver auprès de Photokino. Précision aussi, le film est rediffusé le week-end suivant, le samedi en début d'après-midi et le dimanche matin. Pour connaître les horaires précis, il faut là consulter le programme du cinéma Les Variétés. À bientôt.
Children,
Alors, en attendant d'aller au cinéma de Photokino, je vous propose une sortie en famille au Pavillon Noir à Aix-en-Provence pour un spectacle qui s'intitule Ulysse. Et nous accueillons aujourd'hui la chorégraphe Josette Baïs avec nous en ligne aujourd'hui. Josette Baïs, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez monté donc un spectacle avec des enfants qui font partie d'un groupe qui s'appelle Grenade, des enfants âgés entre 8 et 18 ans. Alors, d'où viennent ces enfants? Ce sont des danseurs professionnels?
Alors, bon, on ne peut pas dire tant que c'est des enfants qui sont danseurs professionnels, mais en tout cas, la démarche l'est. C'est-à-dire qu'on a une école ici dans laquelle on joint des enfants du centre-ville d'Aix ou des villes alentours, même jusqu'à Aubagne, Salon, etc. Et des enfants des quartiers de Marseille, quartier nord, et d'Aix-en-Provence aussi, de la Cité Besson, Jas de Bouffon, etc. Donc on a un regroupement d'enfants qui viennent prendre nos cours et qui peuvent rentrer dans le groupe Grenade à partir de 7 ans pour faire des spectacles toute l'année.
D'où vient ce nom, Grenade?
Alors, le grenade, c'est un proverbe arabe qui dit « de la grenade sort 1000 enfants ». C'est-à-dire que c'est le fruit qui symbolise la jeunesse, l'effervescence, le dynamisme, la vie. Donc, comme c'est un petit peu ce qui se passe avec nous, c'est-à-dire qu'en général, nos danseurs sont assez dynamiques et pleins de vie, on l'a appelé comme ça.
Mmh. Alors, vous avez travaillé avec Jean-Claude Galota et on dit de vous que vous avez développé un langage singulier. En quoi est-ce que ce langage des corps diffère d'autres langages?
Bah, écoutez, nous, en fait, on a rencontré les jeunes des quartiers de Marseille en 89. Donc, on a été très éblouis par tout le métissage qu'il y avait là-bas, toutes les danses. Enfin, à l'époque, ce n'était pas du métissage, justement, c'était des danses très, très ciblées, ethniques, hip-hop, etc. Et donc, on a fait un film, puis deux, puis on a pris les enfants pour faire des spectacles. Et là, ma façon de faire a bougé. Mon corps a évolué et ma pensée aussi, parce que petit à petit, en continuant à travailler avec ces enfants, qui sont venus des adolescents puis des adultes, du coup, on a forgé un style qui, je pense, ne ressemble à aucun autre, dans la mesure où on a à la fois du classique, du contemporain, du hip-hop, la danse orientale, flamenco, enfin tout ce qui bouge et qui on peut attraper, on attrape, donc ça fait une fusion de styles en fait.
Alors ce spectacle Ulysse, c'est un spectacle qui avait déjà été créé il y a une dizaine d'années, c'est ça?
Non, plus que ça.
Plus que ça.
Parce qu'en fait, Ulysse est né d'un désir. Bon, moi j'avais déjà fait un premier spectacle avec Jean-Claude Galota qui s'appelait Trois Générations, qui a beaucoup tourné pendant 3 ans en France et dans le monde entier. Et après, moi j'avais dansé en 81 à la création d'Ulysse. Il avait créé à la Maison de la Culture de Grenoble et c'était un très très beau spectacle dans lequel vraiment Jean-Claude a excellé tant au niveau de la mise en scène que de la chorégraphie. Et comme Trois Générations, c'était une pièce qui était assez amusante parce que les petits de chez moi, plus les danseurs de Jean-Claude, plus les seniors, papy, mamie, reprenaient exactement la même pièce pendant 25 minutes. Et on revoyait 3 fois la même chose, c'était extraordinaire. Et comme ça nous avait beaucoup plus travaillé ensemble, on s'est dit, tiens, on pourrait aller plus loin et monter Ulysse. Mais Ulysse, c'était la pièce majeure de Galota, la plus difficile, qui durait 1 heure avec toute l'époque Cunningham, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire vraiment avec une technicité remarquable. Donc tout le monde m'a dit, tu es complètement folle, tu n'y arriveras pas, c'est même pas la peine d'insister, c'est du délire pur et simple, limite mégalomaniaque. Et en fait, j'ai tenu bon quand même.
Vous avez relevé le défi?
J'ai relevé le défi parce qu'il y a tout ça qui m'intéresse maintenant, c'est les défis, vraiment, quand plus c'est difficile, plus ça m'intéresse. Et en fait, les enfants sont tellement extraordinaires qu'ils ont effectivement relevé le défi et que là, ils ont plein de tournées cette année et puis encore plein l'année prochaine et que ils sont tout à fait incroyables dedans. Et donc, j'ai remonté exactement la même version que celle que j'ai dansée. La même musique, les mêmes solos. Les solos du petit garçon qui fait Ulysse, par exemple, sont c'est le solo de Jean-Claude Galota de 81. J'ai tout décrypté à la vidéo et j'ai tout remonté à l'identique.
Et les enfants se sont adaptés, puisque c'était un spectacle monté pour des adultes à l'époque?
Alors oui, mais c'est quand même un spectacle qui est extrêmement ludique. Alors d'abord, d'accord. Il se déplace beaucoup, il est très gai, tous les enfants sont en blanc, c'est un univers assez onirique, poétique et en même temps assez jubilatoire, hein, mais c'est vrai que les 2 premiers mois, c'était l'apocalypse, parce que déjà, ce n'est pas mon style, moi je le connais bien ce style, donc c'est vrai que le style Galota, j'ai toujours eu dans ma peau, quoi, ça c'est pas un problème. Mais eux, pas, parce que eux étaient versés plutôt au métissage. Et tout d'un coup, il fallait aller, et dans, là, le métissage, on le verra pas sur Ulysse, ou très peu. Parce que là, il fallait aller dans du contemporain pur et dur, et essayer de trouver vraiment une démarche qui était complètement comme des adultes de cette époque-là. Mm-hmm. Mais par la jubilation, par le trajet, par l'humour, par tout ça, on a trouvé un biais qui nous permettait quand même d'aller dans ces chorégraphies-là. Et, mais au début, c'était très dur, ça, je le cache pas.
Alors vous avez gardé aussi, les enfants, vous venez de le dire, sont tous de blanc vêtus, c'est un choix esthétique initial, oui, d'une grande sobriété, oui, que vous avez conservé.
Oui, oui, parce qu'en fait, quand on a créé Ulysse, on était comme ça, nous. Moi j'ai fait encore plus sobre, je suis allée dans le même sens hein, à peu près, mais à l'époque, je m'en souviens, il y avait des fioritures, il y avait des espèces de coquillages qui étaient incrustés dans les vêtements, etc. Moi j'ai fait encore plus sobre, c'est-à-dire que les enfants sont... avec des petits pantalons de lycra ou des petits shorts blancs et puis des tulles, c'est tout simple. Et c'est les corps qu'on voit et c'est les personnalités qui m'intéressent là-dedans.
Et est-ce que cette pièce, Ulysse, raconte une histoire ?
Non, 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 non. Enfin, faut surtout pas aller chercher justement de voir les cyclopes et les sirènes.
Voilà, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que ça fait référence quand même.
Non, non, c'est très abstrait, c'est ça qui me plaît, moi, c'est que c'est très abstrait. C'est-à-dire qu'en fait, Ulysse, à tour de rôle, n'est pas le même petit enfant, les Pénélopes non plus. Voilà, tout le monde est chez moi, tout le monde est toujours équivalent. Et dans Galota, à l'époque, dans les pièces de Galota, c'était la même chose. Et donc, non, c'est plus un emportement. Moi, je vois ça comme un voyage, par contre. Hein, c'est vraiment un voyage. On part en balade au début, on sent que c'est un voyage. On retrouve, je ne dirais pas, mais des choses à la fin un peu similaires. Et donc, c'est une boucle qui est bouclée à plein de niveaux. Et entre-temps, Ulysse a rencontré des individus. Voilà, il a rencontré des individus, des petites filles, des petits garçons, etc. Et donc, c'est ce voyage, mais c'est le rythme et l'espace que je trouve formidable dans Ulysse, où Jean-Claude a vraiment été dans un emportement chorégraphique que j'ai rarement vu, même dans d'autres pièces. Hein. C'est de la trajectoire, c'est-à-dire c'est du voyage dans lequel on s'arrête à certains moments pour sentir la poésie de l'arrêt du voyage. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée.
Alors, est-ce que produire ce spectacle dans ce haut lieu de la danse contemporaine à Aix-en-Provence, au Pavillon Noir, est-ce que ça rajoute quelque chose ?
Oh ben oui, de toute façon, nous, on est extrêmement contents à chaque fois qu'on passe soit au Pavillon, soit au Grand Théâtre de Provence, parce qu'on est d'Aix depuis 25 ans, je pense. Donc, c'est notre ville, c'est notre territoire, et on a un public très nombreux qui vient nous suivre, c'est tout le temps comme ça, et on est très fiers de pouvoir montrer ce que les Aixois, puisque tous les danseurs sont Aixois exclusivement, donc ont pu montrer, ont pu réaliser dans l'année, et ce qui va être exporté après en France à l'étranger, nous on est très heureux de le montrer là.
Bien, Josette Baïs, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre enthousiasme. Et oui, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, ça ne fait rien, parce que tout le monde me dit toujours que je suis enthousiaste.
Oui, effectivement. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, Ulysse, c'est jeudi 26 février, vendredi 27 février à 19h30, donc oui, au Pavillon Noir, ainsi que samedi 28 et dimanche 1er mars à 17h à Aix-en-Provence. Donc, pour tout renseignement, un numéro de téléphone, le 08 11 020 111. Voilà, pour se laisser emporter à votre tour, au cœur de ce voyage et de ce rythme dont voilà, vous nous avez un petit peu décrit à quoi peut ressembler ce spectacle. Merci beaucoup et
merci
au plaisir.
Bien sûr. Au revoir.
Au revoir. Un caillou dans la chaussure, c'est terminé. Un grand merci aux fidèles acolytes Nathalie Guimard et aujourd'hui Karen Louis qui s'est jointe à nous pour Photokino et Sébastien Gély à la technique. Prochain rendez-vous le mercredi 25 mars à 11h sur Radio Grenouille, bien sûr. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.